en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Au cours du colloque « Regard sur l'homme contemporain à travers la politique et les médias », Alain Berthoz et Philippe Kourelski, deux académiciens des sciences, nous apportent leur éclairage sur le fonctionnement de la société au regard des neurosciences sociales. « Regard sur l'homme contemporain », c'est le titre d'un colloque qui avait lieu en mai 2011 à l'Institut de France et dont Canal Academy vous propose la retransmission intégrale en plusieurs parties. Ici, Philippe Kourelski se penche particulièrement sur le phénomène de l'altruisme et crée pour l'occasion un nouveau concept, celui de l'altruité, vous l'entendrez dans quelques instants, mais laissons pour l'heure la place au neurophysiologiste Alain Berthoz, dont l'intervention porte sur les interactions entre l'environnement social et le comportement de l'homme contemporain et les apports des neurosciences sociales pour comprendre ces interactions. On l'écoute.
Donc le titre de mon exposé est « L'environnement social ». Et le comportement de l'homme contemporain. Donc le sujet de mon exposé, en gros, est le suivant. Pour progresser dans la tolérance, la démocratie, les problèmes de la violence sociale et le fanatisme, qui est un sujet qui nous concerne tous et sur lequel j'ai eu l'occasion de m'exprimer au Collège de France, en particulier ici, il faut mieux comprendre les bases neurales de la vie sociale. Et un certain nombre de colloques récents ont été consacrés directement ou indirectement à ce sujet. Un colloque sur la pluralité interprétative, qui est d'ailleurs surpodcasté et qui est publié, fait avec mes collègues au Sola Stock. Un colloque récent organisé par Mireille Delmas-Marty sur hominisation-humanisation. Et peut-être un futur colloque que j'aimerais organiser à l'Institut des droits de l'homme de Strasbourg sur les droits de l'enfant. Malheureusement, lorsqu'on interroge les neurosciences sociales sur ce sujet, eh bien on sait peu de choses. Et c'est ce peu de choses que je vais aujourd'hui simplement esquisser. Le problème est complexe, par exemple, le problème de l'identité, qui reste un facteur puissant de violence ou de pathologie. Paul Ricoeur avait bien défini le problème du fondement intersubjectif de l'identité. Soi-même comme un autre, c'était le titre de son livre. Il avait défini trois types d'identité. L'identité comme même-té, permanence dans le temps. L'identité comme ipséité, et il écrivait « L'ipséité du soi-même implique l'altérité à un degré si intime » que l'une ne se laisse pas penser sans l'autre. Autrement dit, le problème de l'intersubjectivité est aussi au fondement de la construction du soi. Et puis l'identité narrative, sur laquelle je ne dirai rien. Le problème d'aujourd'hui, c'est l'extraordinaire multiplicité, je dis là une chose triviale, des identités. Autrefois, on avait un certain nombre d'identités, comme citoyen, père, etc. Aujourd'hui, il y a un éclatement des identités. Il y a aussi ce sur quoi nous avons insisté dans un grand colloque sur les métamorphoses du travail que j'ai organisé au Collège de France il y a 2 ans et que j'avais intitulé « Travail, identité, métier, quelle métamorphose ?» Et vous connaissez les problèmes aujourd'hui qui sont posés par ces métamorphoses profondes, avec d'ailleurs une absence à peu près totale de vraies recherches nouvelles sur cette question. Le problème des identités multiples est d'autant plus compliqué qu'il y a un changement d'un instant à l'autre de l'identité. Autrement dit, pour les neurosciences, le nouveau champ des neurosciences sociales est extraordinairement complexe, plus encore que ce qu'on pouvait imaginer. Cette multiplication des identités rend très difficile la création d'une identité stable et cohérente dans un présent situé entre un passé, la mémoire autobiographique, et un futur. En effet, l'identité, c'est un processus dynamique qui, en permanence, fait appel à ce que les neurologues et les neuropsychologues aujourd'hui appellent le voyage mental entre le passé et le futur, avec toutes les pathologies et tous les problèmes sociaux que cela implique. Autrement dit, on a affaire à une question extrêmement difficile, même si on la pose de façon générale, sans aller regarder quelles sont les structures du cerveau, comme un physiologiste doit le faire, qui sont impliquées dans ces processus. Et il y a prolifération de modèles, et en particulier ce modèle de Gallagher, qui est un philosophe et proche des sciences cognitives, qui a travaillé sur le soi avec 2 modèles extrêmes. L'idée qu'un certain nombre des constituants de l'identité constituent un soi unique, en quelque sorte, même s'il est intersubjectif par essence, et d'autres modèles qui disent que dans notre cerveau, nous aurions en fait des réseaux différents. Alors là, j'entre un peu dans la physiologie. Des réseaux qui, en quelque sorte, coderaient, pardonnez l'expression, ces différentes identités. Et par conséquent, il y aurait un espèce de jeu permanent entre ces différentes manifestations neuronales ou psychologiques, disons, de l'identité. Le défi est donc aujourd'hui que pour avancer dans ces questions, il faut commencer par comprendre les bases neurales de la relation avec autrui. Ça n'est pas simple, mais c'est bien le défi de sortir du sujet solipsiste, en quelque sorte, pour faire une véritable neuroscience sociale. La figure suivante vous montre un titre de livre, puisqu'aujourd'hui, il y a une communauté, il y a des livres, il y a même un journal, Social Neuroscience, et il y a donc, vous voyez, depuis 2004, des travaux et des volumes des livres qui essayent de mettre en relation neurosciences, psychologie, philosophie, etc., sur ce sujet difficile. Donc aujourd'hui, les neurosciences cognitives, en coopération avec neurologues, psychiatres, etc., cherchent à identifier les aires du cerveau impliquées dans ces relations sociales. Cette approche, évidemment, je le précise, ne cherche pas à faire une phrénologie réductrice et elle est consciente de ses limites par rapport à l'étendue des problèmes posés qui dépassent certainement le fonctionnement cérébral. Ça, c'est pour qu'on soit clair que je ne fais pas du réductionnisme primaire. Alors, un petit rappel, parce que je suis un physiologiste, sur les différents cerveaux, puisqu'on m'a demandé d'en parler. Et nous avons un cerveau cognitif, un cerveau des émotions, le cerveau cognitif avec ses voies dorsales, ici, qui traitent des informations concernant l'espace, où se produisent les événements, etc. Et puis le cerveau ventral, ici, le cerveau du quoi, qui identifie l'identité, les visages, des objets. Donc c'est tout un traitement dans lequel il y a un éclatement des fonctions qui éclate le monde, en quelque sorte, en ses capacités, en ses propriétés. Et puis, il y a ce cerveau des émotions, avec cette structure fondamentale qui est l'amygdale, qui reçoit les informations sur le monde très très rapidement, en quelques dizaines de millisecondes, et qui va leur attribuer de la valeur. Et cette structure travaille avec le cortex orbitofrontal, va éventuellement être capable de modifier la valeur, de modifier les jugements, dirons-nous, à l'emporte-pièce, a priori, que fait l'amygdale en fonction de schémas, soit génétiquement déterminés, soit acquis en fonction de l'expérience passée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et puis, ce cerveau des émotions va permettre au cortex préfrontal de prendre des décisions en intégrant l'ensemble de toute la multiplicité des mémoires, etc. Ça, c'était le résumé en 30 secondes, pardonnez la trivialité de l'exposé. Eh bien, il y a identification d'un cerveau social, en quelque sorte, et en particulier de rôles importants des structures que j'ai mentionnées, comme l'amygdale ici, le cortex préfrontal, et toute une zone ici, dans le sillon temporal supérieur, qui est impliquée dans la construction du corps propre et les relations avec autrui et l'espace. Donc il y a aujourd'hui des données, et la figure suivante vous montrera un résumé fait récemment, c'est en 2007, d'un certain nombre d'études de neurologie ou d'imagerie cérébrale sur les circuits cérébraux de base de la préférence sociale. Alors, vous voyez, il y a toute une série de conditions, la réciprocité, la donation. Donc, les gens aujourd'hui utilisent des paradigmes qui sont des paradigmes de relations sociales liées à notre problème. Et vous voyez, ce qui est tout à fait étonnant, c'est bien la concentration sur ces aires profondes du cerveau que l'on retrouve d'ailleurs dans la neuroéconomie, dans des jeux financiers, qui sont ces structures avec l'amygdale et les structures de base du cerveau impliquées de façon très fondamentale dans cette évaluation des relations sociales. Et puis, il y a des expériences plus précises, comme par exemple le fait que si j'établis tout d'un coup un contact par le regard avec certains d'entre vous, je n'ose pas le faire avec un ministre, mais eh bien, nous allumons nos amygdales, c'est-à-dire le contact par le regard immédiatement engage tout le cerveau des émotions. Et ceci a été montré. Donc on a maintenant à la fois des paradigmes très complexes et des paradigmes plus précis qui permettent peu à peu de comprendre le rôle de ces différentes structures. Et en même temps d'en voir le rôle aussi dans des aspects plus globaux de la position de l'individu dans la société, qui est par exemple l'optimisme ou le pessimisme, c'est-à-dire le contexte dans lequel se situent ces relations. Et voici, parce que je dois le citer aujourd'hui, évidemment, le travail de Damasio, dont vous pourrez lire les livres qui sont extrêmement intéressants, sur ce qu'il a appelé l'hypothèse des marqueurs somatiques, à savoir que les grandes analyses qui sont faites par notre cerveau cognitif du monde, des représentations des conséquences futures, etc., sont marquées, dit-il, somatiquement dans le cortex orbitofrontal, sont marquées là par les relaxions du corps. Quand un juge dit, comme m'a dit le professeur Jung, à Starbrook m'a dit « Oui, moi j'avoue que je prends mes décisions malgré les milliers de pages du droit, je prends les décisions en fonction de mon intuition, gut feeling » disent les Anglais. Eh bien, Damasio a proposé que ces processus cognitifs, apparemment très logiques, issus de la connaissance, sont marqués par des réactions du corps sensible. On revient à William James, etc. Et Étienne Coquelin, qui dirige un laboratoire à l'École normale supérieure, a récemment proposé dans de très très beaux... Il est économiste, polytechnicien et neuroscientifique. Il a fait des théories donc sur la décision. Il propose une espèce de distribution du travail entre le cortex frontal, le cortex cerveau des émotions, orbitofrontal, amygdale, et le cortex préfrontal. Le cortex frontal serait impliqué dans la motivation, le désir, j'ai envie de faire quelque chose. Le cortex limbique attribue de la valeur, il dit « je préfère faire quelque chose » ou au contraire « j'ai peur, j'ai déjà des expériences passées dangereuses » ou au contraire très bonnes. Et puis le cerveau préfrontal prend la décision avec un jeu de rôle extrêmement délicat évidemment entre ces trois types d'influences qui peuvent donner à un moment donné un accès excessif à l'un ou à l'autre. Alors maintenant je vais passer en revue très rapidement un certain nombre d'exemples sur ces formes élémentaires d'interaction sociale ou des formes plus complexes. La forme la plus élémentaire, c'est l'imitation. Voilà, l'imitation inconsciente que nous faisons dans les relations sociales. On a une tendance à imiter l'action des autres. Nous ne sommes pas normalement conscients que nous sommes en train d'imiter. Si les personnes puissantes nous traitent mal, nous avons aussi plus tendance à les imiter pour essayer de créer des liens. Un autre exemple, imitation et décision. Imiter les autres mène à des comportements plus serviables et généreux. Cela est largement inconscient. Une étude, par exemple, s'est intéressée au pourboire, et ceci était plus important lorsque le serveur, complice de l'expérimentateur, avait imité la personne qui payait. Donc ce sont des mécanismes de base très élémentaires et qui sont en partie sous-tendus par un phénomène qui est une des grandes découvertes des neurosciences contemporaines, faite par notre confrère, d'ailleurs, Giacomo Rizzolatti, puisqu'il a été élu membre associé de l'Académie des sciences, qui sont les neurones miroirs, qui sont des neurones situés dans le cortex frontal, et qui s'active aussi bien lorsque je fais une action, un geste, ou bien lorsque vous en faites un. C'est-à-dire que ces neurones ne codent pas un mouvement, ils codent un acte, que ce soit fait par autrui ou par soi-même. C'est-à-dire que je comprends dans mon corps, en acte, dans mon cerveau, un geste que vous faites, et on attribue à ce système miroir beaucoup de propriétés, peut-être trop, mais c'est un des mécanismes de base de cette imitation inconsciente, qui n'est pas seulement imitation, mais qui est réellement simulation de l'action d'autrui. On a aussi des données récentes très intéressantes d'électroencéphalographie qui montrent que si on enregistre l'activité de cerveau de deux personnes, comme je pourrais le faire ici dans la salle si je montrais un film, si vous étiez au Festival de Cannes, eh bien on s'est aperçu que chez deux personnes qui regardent les éléments du film, il y a une véritable synchronisation des activités cérébrales, des aires spécialisées dans l'analyse d'une scène, d'un visage ou d'un geste. Autrement dit, il y a réellement un entraînement commun dont on commence à comprendre la dynamique. Il ne s'agit pas d'où peut-être aussi des recherches dans l'avenir sur les phénomènes de foule ou des choses comme ça. Et puis si on va un petit peu plus loin, il faut aller regarder non pas seulement sur ce que nous appelons la sympathie, c'est-à-dire le fait d'éprouver l'émotion d'autrui par une espèce de résonance entre nous, mais la véritable empathie. Il y a aujourd'hui beaucoup de modes sur l'empathie et je pense qu'il y a une forme d'imposture dans la mesure où on attribue à des processus réellement empathiques, comme ils avaient été définis par les grands philosophes allemands en particulier, des propriétés qui en réalité ne sont que la sympathie. Je vous dis un petit mot, j'en ai parlé à la dernière réunion, je l'évoque ici. La sympathie, pour moi, consiste à éprouver les émotions d'autrui sans se mettre nécessairement à sa place. C'est une contagion des émotions. Alors que la véritable empathie consiste à se mettre à la place d'autrui avec un changement de référentiel spatial en utilisant son corps virtuel tout en restant soi-même. Si j'essaye de comprendre ce que vous pensez de mon exposé, il faut que j'aille m'asseoir à votre place, que je perçoive Berthoz en quelque sorte de votre point de vue. Mais si vous souffrez et que je veux vous aider, il faut que je puisse éprouver la souffrance de votre point de vue, mais en même temps que je sois capable de l'inhiber. C'est un processus donc extraordinairement complexe qui met en jeu vraisemblablement des compétitions entre tous ces circuits. Alors nous avons avec une philosophe, Bérangère Thiriou et Gérard Jorland, historien des sciences, pris un petit modèle qui était d'ailleurs le modèle de Fischer du funambule, j'en ai parlé la dernière fois, sur l'interaction avec autrui, et nous avons pu montrer qu'en réalité, dans ces deux types de comportements, la simple contagion émotionnelle, l'imitation, vous souffrez, je souffre, etc. ou bien la véritable empathie, eh bien, il y a ces deux types de comportements, le comportement en miroir, en quelque sorte, ou le comportement avec cette dynamique très complexe que j'ai décrit. Et ce sont des réseaux du cerveau différents et pour une part partagés qui sont impliqués dans ces deux circuits. Alors, on n'est pas prêt de vraiment comprendre complètement ce mécanisme, mais à Cerisy, dans quelques semaines, il y aura un colloque interdisciplinaire sur ce sujet avec des philosophes, des neuroscientifiques, etc. Alors, il y a eu déjà des données dans la littérature, notamment de Jean de Cetti, qui malheureusement est parti aux États-Unis avec Ruby, sur les aires du cerveau impliquées lorsqu'on regarde le monde à la première personne ou à la troisième personne. C'est un sujet qui a explosé depuis 5 ou 6 ans. Et il y a un modèle qui a été développé énormément, sur lequel les gens continuent à travailler et qui est important évidemment pour des processus comme la torture, mais de façon générale pour la perception de la souffrance d'autrui, qui est cette question de la perception de la douleur d'autrui. Alors, je donne très rapidement maintenant quelques images ou quelques données sur ce type de sujet. Les recherches ont montré que femmes et hommes montrent de l'empathie ou sympathie pour la douleur d'autrui, même s'ils ne connaissent pas la personne, c'est classique. Néanmoins, l'amplitude de cette activation empathique-sympathique, c'est pour ne pas entrer dans le débat, est plus faible pour des inconnus que pour des personnes bien aimées. Tout ça est encore assez trivial. Les expériences qu'on fait maintenant, eh bien, on montre par exemple quelqu'un qui est en train de se couper ou de se pincer un doigt dans une porte. Enfin, il y a toute une série d'astuces qui permettent d'étudier dans les scanners les aires du cerveau impliquées dans la perception de la douleur d'autrui. Et ces recherches-là montrent d'abord le réseau de base de cette perception de la douleur d'autrui, mais des choses intéressantes. Par exemple, le fait que ce ne sont pas exactement les mêmes aires qui sont impliquées dans la perception de la douleur de soi et d'autrui. Pour une part, oui, mais pour une part, non. Et ça ouvre des perspectives, à la fois en pathologie, mais peut-être en neurosciences sociales, pour l'avenir. Donc, vous voyez. Et un autre type de résultat est que l'empathie de la douleur implique des composantes affectives, mais non pas sensorielles de la douleur. Donc, on peut décomposer aujourd'hui un petit peu ce qui est l'aspect affectif de la perception de la douleur d'autrui et ce qui est purement sensoriel. C'est un chantier. Et donc, dans les circuits qui sont complexes, mais identifiables, c'est ça qui est intéressant, on peut distinguer ce qui est impliqué dans les composantes sensorielles, dans les composantes affectives, et donc commencer à construire à la fois une neuropsychiatrie, mais aussi une neuropsychologie de ces choses-là. D'autres résultats, la perception de la douleur d'autrui chez les femmes et les hommes, elle n'est pas la même. Il y a de très grandes différences. C'est un sujet qui n'est pas forcément politiquement correct, en tout cas jusqu'à récemment. Il y a énormément de travaux maintenant sur les différences interindividuelles, avec un retour de la psychologie différentielle qui a quasi disparu en France. J'ai fait mon dernier cours au Collège de France l'année dernière sur ce sujet d'ailleurs. Et puis des différences intéressantes entre les hommes et les femmes en particulier. Et puis des résultats tout à fait étonnants, importants. Un exemple de l'impact profond des relations sociales qui est l'exclusion sociale, l'ostracisme. Eh bien, une recherche récente a montré que l'ostracisme, bien sûr, mène au désir d'être aimé, réinclus, à une plus grande tendance à l'imitation, mais aussi à un comportement antisocial agressif, c'est connu. Les personnes ostracisées sont sensibles aux groupes extrémistes, car ce sont peut-être les seuls d'où ils ne seront pas exclus. Mais le résultat des neurosciences est que le réseau activé par l'ostracisme est le même que pour la douleur physique. Autrement dit, être exclu d'un groupe, ça fait mal. Ça fait mal, et ça a fait mal dans le corps, et peut-être ceci n'est pas totalement étranger à un certain nombre de comportements, par exemple de suicide, etc., de certaines personnes dans certains milieux lorsqu'ils sont ostracisés, ou bien que par l'organisation du travail, du management, de la hiérarchie, éventuellement ils se trouvent en quelque sorte, et par ce jeu des identités multiples, ils se trouvent comme s'ils étaient ostracisés. Là, je me lance un petit peu, mais c'est pour vous dire comment on peut éventuellement essayer, puisque vous m'en donnez l'occasion, de réfléchir. Alors, évidemment, il y a aussi des aspects positifs, la compassion, l'altruisme, sur lequel maintenant des paradigmes de neurosciences cognitives sont en train de s'élaborer. L'amour aussi, mais je n'aurai pas le temps d'en parler. Alors, par exemple, sur l'exclusion, eh bien, il y a aussi des paradigmes dans lesquels on montre les aires du cerveau impliquées dans l'observation de l'exclusion. Et vous voyez que lorsqu'on demande à des sujets d'observer cette exclusion sociale qui fait mal, qui évoque les mêmes structures que celles de la douleur physique, eh bien, on trouve ces aires du cortex frontal. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces aires du cortex préfrontal médial et l'insula antérieure sont activées pendant le comportement prosocial d'aide à une victime. Autrement dit, on en est maintenant dans cette communauté à ne pas faire simplement des paradigmes d'interaction, je dirais très simples, de contagion émotionnelle, mais réellement d'aborder ces problèmes, non pas seulement de la sympathie ou de l'empathie, comme je l'ai défini, mais de la compassion, c'est-à-dire de l'attitude que l'on peut avoir lorsque on observe une exclusion, etc. Tout cela reste évidemment de l'identification des aires cérébrales. On n'en est pas encore à l'analyse des mécanismes, mais c'est un pas. Et par exemple, l'altruisme, et Philippe Kurilski vient d'arriver juste à temps, puisqu'il vient de faire, comme ça a été mentionné tout à l'heure, un livre sur ce sujet. Les altruistes désirent être des agents et il se trouve que l'imagerie cérébrale montre qu'ils activent des aires impliquées dans l'agentivité. Donc être altruiste, c'est activer dans son cerveau certaines aires particulières. Et l'altruisme, vous voyez ça, c'est un peu l'arrogance des neurosciences, d'une certaine façon, de prétendre que l'altruisme est prédit par l'activation du PSET, mais peut-être accepterez-vous cette formulation à condition qu'elle soit donnée avec beaucoup de modestie. Puis je terminerai avec un problème encore plus général, qui est celui des normes sociales et des règles morales, qui maintenant fait partie des neurosciences cognitives. Julie Grèze, qui était dans notre laboratoire, mais qui est maintenant à l'École normale supérieure, dans le laboratoire d'Étienne Quéclin, a par exemple étudié des paradigmes dans lesquels on regarde le mensonge et la capacité de détecter si autrui est honnête ou vous trompe. Par exemple, elle montre des images de quelqu'un qui soulève une boîte, comme si la boîte était très, très lourde, et les sujets doivent détecter si le sujet ment ou ne ment pas. C'est un paradigme d'une certaine façon un peu simple, mais qui permet de montrer que toute une série de choses, par exemple, lorsque le sujet est trompé eux-mêmes, une activation de l'amygdale et du fusiforme, lorsque les sujets observent autrui en train d'être trompés, activation du sillon temporal supérieur et du cingulum antérieur. Vous rappelez-vous, ce sont les aires du cerveau social que j'ai décrit il y a un temps. Et ces quatre aires font partie du système essentiel pour la cognition sociale. Il est possible que l'activation de l'amygdale, lorsqu'on est trompé, soi-même, soit liée à la perception d'un danger résultant du mensonge. Vous voyez qu'on peut aborder des problèmes un peu généraux en inférant de ces expériences. Alors, un autre problème qui intéresse cette communauté, le sentiment de loyauté, sa violation, qui sont étudiés en utilisant des paradigmes développés dans la théorie des jeux et l'économie expérimentale. Par exemple, l'arbre de jeu pour la version séquentielle du dilemme du prisonnier, vous savez, nier ensemble ou dénoncer son partenaire, c'est un paradigme classique, qui est utilisé sur cette question de la loyauté, avec des résultats qui, par exemple, pointent sur des bases possibles du désir de revanche. On induit, par exemple, de la douleur dans le cadre d'un jeu. Les hommes, contrairement aux femmes, on retrouve des différences entre les hommes et les femmes, modifient leur réponse cérébrale empathique pour la douleur face à des joueurs déloyaux. Si un traître est soumis à une douleur, les hommes montrent, par contre, une activité augmentée dans les aires de la récompense, noyau accumbens, qui est associée à des différences dans le désir exprimé de revanche. Donc, vous voyez, les neuroscientifiques aujourd'hui sont assez audacieux pour essayer d'aller un petit peu dans ces domaines-là. Il y a des modulations de l'activité insulaire en fonction du caractère honnête ou malhonnête du partenaire, par exemple, avec des différences ici, encore une fois, entre les hommes et les femmes. Et Tanya Singer a même osé, dans une conférence qu'elle a faite au Collège de France où je l'avais invitée, c'est une femme qui a dit ça, je précise, et voilà pourquoi les hommes font la guerre et les femmes ne le font pas. Je redis que c'est Tanya Singer, une très brillante femme qui dirige à Max Planck d'ailleurs maintenant, qui a osé proposer cette idée, puisqu'il s'agit d'un débat. Et puis, le dernier point, le respect des règles morales, les normes sociales, avec des recherches qui sont faites sur l'acceptation des normes sociales et, encore une fois, l'implication de ces aires orbitofrontales, etc., en relation avec le cerveau cognitif, dans ces respects de normes. Et vous savez que c'est un problème important. Je préside actuellement à la RATP un groupe de prospective sur les problèmes de la recherche dans le transport. Eh bien, il y a un problème dans les jeunes générations en particulier, de respect des normes sociales. Et c'est un sujet d'actualité, en quelque sorte, aujourd'hui, lié à toute une série de facteurs sociaux. La figure suivante, il y a aussi des recherches qui sont faites maintenant sur la violation intentionnelle et non intentionnelle des normes sociales. L'embarras, par exemple, ce n'est pas moi qui suis l'auteur, mais ma fille Sylvie qui travaille à l'INSERM, sur les problèmes, justement, de ces normes sociales. Il y a donc toute une génération, aujourd'hui, de jeunes qui sont aux frontières entre psychiatrie, sociologie, on pourrait me dire, et neurosciences cognitives sur ces problèmes si importants. Et il y a même des sujets, je terminerai par là, qui sont des paradigmes. Ceci en est un, mais il y en a beaucoup d'autres, comme celui-là. On est en temps de guerre, vous êtes caché dans une cave avec plusieurs autres personnes, les soldats ennemis sont à l'extérieur, votre bébé se met à pleurer très fort, et si rien n'est fait, les soldats vont vous trouver et vont vous tuer. Vous, votre bébé, et toutes les autres personnes dans la cave. La seule manière d'éviter cela est de couvrir la bouche du bébé, mais si vous faites cela, le bébé va s'étouffer jusqu'à ce que mort s'en suive. Est-il moralement permis de le faire cela ? Alors les neurosciences cognitives d'imagerie montrent par exemple l'implication du cortex préfrontal dans ce jeu, et l'hypothèse qui est faite est que cette structure en particulier est impliquée dans des facteurs extrêmement importants d'inhibition, dans le contrôle inhibiteur en quelque sorte, des différentes possibilités qui sont offertes par les différents circuits du cerveau que j'ai décrits devant vous trop rapidement. Je vous remercie.
C'était Alain Berthoz de l'Académie des sciences. Écoutons sans plus tarder son confrère Philippe Kourilski. Il se penche depuis plusieurs années sur le concept de l'altruisme et s'intéresse plus particulièrement ici à l'altruisme en politique. Philippe Kourilski.
Pour commencer, je voudrais dire que vous pouvez penser que c'est un étrange projet pour un homme de science que de réfléchir à la question de l'altruisme. Et je voudrais m'en expliquer rapidement. Depuis pas mal d'années, je suis absolument convaincu que pour des raisons qui sont d'ailleurs partiellement fondées sur la science, nous allons vers un conflit moral absolument majeur pour la raison suivante. Je pense que la lutte contre la pauvreté est en train d'entrer en conflit avec la lutte pour la préservation de la planète. Et je prends le problème dans tous les sens et j'arrive toujours à la même conclusion, il n'y a pas assez d'argent pour tout faire. Quelque part, il faut changer les règles du jeu, sinon on n'arrivera pas. Et je ne vois pas comment on pourra se résoudre à des décisions d'ordre moral lorsqu'il s'agira d'arbitrer entre diminuer les crédits qui aident à lutter contre la pauvreté dans le monde, ce qui est en train de se produire, de façon à préserver, en théorie, l'avenir de nos enfants par des mesures qui touchent au climat, aux énergies nouvelles, etc., etc. Les deux sont nécessaires, et le problème, c'est que si on ne change pas la boîte à outils intellectuelle, je pense qu'on n'y arrivera pas. Voilà ma conviction de base, et ça a été ma motivation pour entamer une réflexion sur ce qui me paraît être le point critique de cette situation, qui m'amène à la notion de l'altruisme. Alors, je vais aborder les choses sous un angle qui est un peu, ou même tout à fait théorique au début, mais qui représente, encore une fois, mon fil conducteur et ma conviction profonde, et qui m'amène à des conclusions dont je dois dire qu'elles sont totalement analogues à celles de Monsieur le Ministre et à celles d'autres orateurs auparavant, mais énoncées et articulées sous un angle plus théorique d'une certaine mesure et sous l'angle carrément moral. Tout d'abord, je voudrais faire la différence entre l'altruisme et ce que j'appelle maintenant l'altruité. La raison est la suivante. J'ai écrit deux ouvrages. L'un, baptisé « Le temps de l'altruisme », publié il y a un an et demi à peu près, et un autre qui s'appelle « Le manifeste de l'altruisme » qui vient de sortir. Et je me suis aperçu, après avoir publié le premier, que le terme d'altruisme est trop complexe pour être bien compris tel que personnellement je voudrais qu'on l'entende. La manière dont je voudrais qu'on l'entende, c'est que l'altruisme, et donc ce que j'appelle maintenant l'altruité, c'est le penser rationnellement à l'autre. Et l'altruisme est porteur de composantes émotionnelles, bien entendu, que l'on peut activer, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, en plus et en moins, si je peux dire. Et donc, l'altruité, si vous voulez, est la composante rationnelle de l'altruisme. Voilà, on peut dire ça comme ça. Maintenant, moi, je pense que, par principe, nous sommes tous attaché à un droit qui est absolument fondamental, pour lequel nos ancêtres se sont battus, c'est le droit à la liberté. Mais d'un autre côté, il me semble qu'il y a un principe moral qui est incontournable, c'est qu'il n'y a pas de droit sans devoir. Et donc la question que l'on peut poser, c'est quels sont les devoirs ou le devoir associé à l'idée de liberté. Pour répondre à cette question, je pense qu'il faut faire le détour par la voie royale d'ailleurs, qui a été prise à Amartya Sen, en énonçant l'idée, le concept de libertés individuelles. Les libertés individuelles, ou les capacités, comme il les définit, c'est ce que vous pouvez effectivement faire. Donc, à quoi ça sert d'être libre en principe, si vous êtes si pauvre que vous ne pouvez pas acheter du pain ? Êtes-vous vraiment libre ? La réponse, bah vraiment, quoi. Et donc, lorsque vous réfléchissez maintenant sous l'angle des libertés individuelles, le devoir qui est associé à ces libertés individuelles que chacun cherche à développer légitimement, c'est qu'il est tenu de développer les libertés individuelles des autres. Et c'est exactement ça, l'altruité, ou plus exactement, le devoir d'altruité. Donc pour moi, ce que j'appelle devoir d'altruité, c'est ce pendant à la fois rationnel et moral qui fait écho au droit aux libertés individuelles, à partir de quoi, si l'on veut, on peut revenir à la liberté au sens général et redéfinir, mais j'en reste à ce niveau. J'admets donc aux libertés individuelles, à ce droit fondamental auquel nous sommes tous attachés, correspond donc un devoir d'altruité, et celui-ci a deux caractéristiques. La première, c'est qu'il est auto-évalué, c'est-à-dire qu'il appartient à chacun dans l'exercice de sa propre liberté de l'évaluer. La deuxième, c'est qu'il a un côté proportionnel. Le côté proportionnel, c'est que, à l'évidence, si je suis riche et puissant, j'ai plus de capacité opérationnelle qu'un autre, et donc j'ai peut-être et sans doute, et par principe moral encore une fois, plus de responsabilité qu'un autre, et donc sur le réchauffement climatique, je prétends que nous ici avons probablement plus de responsabilité pour régler la question que l'Indien d'Amazonie qui fait son feu au fin fond de la forêt. Donc, cette proportionnalité a beaucoup de conséquences, comme on pourra le voir éventuellement plus tard. Mais ce que je voudrais dire, pour moi, est tout à fait important, c'est que l'altruité, donc cette composante rationnelle de l'altruisme, est différente de la générosité, et je tiens beaucoup à faire cette distinction pour les raisons qui vont apparaître. La générosité, elle est dans l'espace des droits. On a le droit d'être généreux, on a le droit de ne pas l'être. En plus, c'est un double droit. On a le droit de choisir l'affectation d'un don, donc de le donner à une association caritative ou pour un musée, pour etc. L'altruité, c'est pas la même chose. On est dans l'espace des devoirs, et donc c'est un devoir de penser à l'autre, et de penser l'autre d'ailleurs, qui n'a absolument rien à voir avec la générosité. Ça n'est pas exclusif, bien entendu, mais ça n'est pas la même chose. Et j'en prends deux exemples qui sont les suivants. Le premier, c'est qu'on peut prendre, en écho aux problèmes financiers dont on va reparler un tout petit peu, en écho à ces problèmes, vous pouvez très bien avoir un des 1000 milliardaires dont M. le ministre a parlé, qui fait tout pour échapper au fisc et qui par ailleurs crée une fondation dans laquelle il s'autorise à être généreux. En échappant au fisc, même par des voies légales, il ne satisfait pas à son devoir d'altruité puisque cet argent rentre dans l'argent public, dans l'éducation, dans etc., alors que lui-même va s'autoriser et donc réexercer son droit à la générosité de cette façon-là. Et l'une des thèses que je vais défendre, c'est que je pense que cette distinction est d'autant plus importante que, en matière de philosophie politique, la générosité sert d'alibi à un ultralibéralisme qui prône les dérégulations maximum, alors que les dérégulations maximum ne marchent pas, comme la crise financière l'a montré. J'en prends pour exemple le point suivant. L'un des plus grands mécènes de ce temps est Bill Gates. Il a créé une fondation qui fait des choses absolument extraordinaires. Et je trouve très remarquable que le même Bill Gates, il y a à peu près 6 mois, ait appelé aux États-Unis, bien entendu, à ce que les riches paient plus d'impôts. C'est donc le constat fait par l'un des plus grands mécènes du temps que la générosité ne suffit pas à régler les problèmes qu'il aperçoit dans son propre pays. Alors, je voudrais maintenant en arriver à quelques principes que j'appelle un peu pompeusement, vous me pardonnerez, de philosophie politique, avec une observation qui est la mienne, que vous partagez ou ne partagez pas, mais qui est la suivante. Moi, il me semble que nos pays libéraux, démocratiques, tournent pas trop bien pour l'instant. Je ne trouve pas que la répartition des richesses s'y fasse très correctement. Il est quand même anormal que lorsque la richesse nationale s'accroît, la distribution se détende et donc qu'il y ait plus d'argent pour les riches et moins pour les pauvres. Il y a quand même des problèmes. Je ne parle pas de la France, je parle en général de la plupart des pays d'obédience libérale. Et il me semble d'ailleurs que les mécanismes démocratiques fonctionnent plus ou moins bien. On pourrait en parler. Mais enfin, moi je vais souvent en Asie, je reviens en France, je me dis mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un manque de projet, le dialogue politique est de l'ordre de la chamaillerie, il n'est pas de fond si vous voulez, et une sorte de perte de repère que l'on peut constater à mon avis dans l'équation politique actuelle. Alors je crois que là, c'est ma conviction et donc j'en arrive à ma thèse, je pense que la crise financière de 2008 a en fait révélé des fractures très profondes dans le système libéral. et dans une certaine mesure, bien sûr, c'est une conséquence, dans l'incapacité des systèmes démocratiques à les contrôler, ce qui est particulièrement grave pour ce qui concerne la notion de démocratie. Ces deux fractures sont d'une part la croissance des inégalités sociales, et deuxièmement, cette dérive du libéralisme philosophique des Lumières vers un libéralisme économique qui prônait la mise en avant de l'économie, pour en arriver à un ultralibéralisme dans lequel la théorie économique est totalement libérée des contraintes initiales et avec une prise de pouvoir qui me paraît évidente, je le dis un peu plus brutalement que ce qui a été mentionné élégamment auparavant, je crois qu'il y a eu une véritable prise de pouvoir mondiale par un système financier qui est contrôlé par un petit nombre de personnes. À partir de quoi ma thèse est la suivante, c'est que au fond, si l'on veut trouver, enfin si l'on pense qu'il existe une source possiblement commune à tous ces problèmes, observé dans des pays qui sont les uns ultralibéraux, mais les autres plus ou moins emprunts, théorie politique socialiste, etc. Je pense que s'il y a une faille dans ce système, c'est dans l'idée de liberté elle-même. Donc ma thèse est la suivante, c'est que dans l'idée de liberté, le problème est que au niveau individuel, on prône la liberté individuelle sans prôner le devoir d'altruité qui normalement va avec. Donc nous ne pensons pas assez aux autres. Et ma thèse est donc ce déficit dans la conception, la définition, l'évaluation du devoir d'altruité est une des raisons pour lesquelles les systèmes commencent à aller vraiment de travers. Alors vous allez me dire, oui, ben peut-être, mais pourquoi aujourd'hui et pas hier ? Et je crois qu'il y a deux raisons à cela. Enfin, il y a beaucoup de raisons à cela, mais j'en articule deux. La première est la suivante. Lorsqu'on regarde les textes, c'est une déclarative des droits de l'homme, et donc tout ce qui a suivi les résolutions françaises, américaines, etc., on voit que la notion de droit à la liberté est omniprésente. La notion de devoir, elle n'est pas très très évidente. En fait, ce qui, me semble-t-il, s'est produit, c'est que la notion de devoir, elle existe sous forme de devoirs sociaux. C'est-à-dire que les devoirs ont été transférés à la collectivité, souvent à l'État, plus ou moins à l'État selon le versant des théories libérales sur lesquelles que l'on suit, mais en gros, c'est vraiment le problème des droits sociaux qui a pris le dessus, et ces droits sociaux, bon, ils sont transférés à la collectivité. Et donc l'individu dans l'affaire est un petit peu exonéré de réfléchir à sa responsabilité individuelle. Là-dessus, s'est greffé un autre phénomène, c'est qu'en fait, me semble-t-il, encore une fois, il faudrait une analyse historique que je ne suis pas capable de mener pour s'en assurer, la pensée religieuse s'est beaucoup diluée, notamment à partir des années 1950, donc c'est un phénomène assez récent. La pensée religieuse était porteuse, évidemment, d'un certain nombre d'impératifs moraux, à peu près, quelles que soient les religions, presque tout dans la même direction, et dans la direction de l'altruité entendue comme une injonction divine pour penser à l'autre ou à son prochain, etc., dans une forme qui n'est pas que rationnelle, bien entendu, puisque nous parlons de religion, mais il y avait une pulsion, si vous voulez, vers cette morale que d'ailleurs la Troisième République et d'autres ont voulu remettre dans l'espace laïque par des manuels d'éducation civique, et on peut dire que ça s'est un peu dilué là aussi dans le temps. Du coup, me semble-t-il, le système global est resté un peu sur le sable en matière de définition des responsabilités individuelles, ce que l'on voit est une poussée très très forte de ce qu'on appelle l'individualisme et qui a pour contrepartie ce que j'appelle un déficit considérable d'altruité. Alors, la deuxième raison que je voudrais évoquer, c'est la raison économique. Et je pense que fondamentalement, il y a effectivement une dérive profonde de la philosophie libérale que j'essaie d'identifier comme suit. La revendication d'autonomie de l'économie pour l'économie hors des systèmes, hors de la philosophie libérale ordinaire. La philosophie libérale ordinaire, entre guillemets, c'est tout simplement la philosophie des Lumières. C'est la mise en avant de la liberté comme principe de philosophie politique. Donc ça n'a pas le sens qu'on utilise aux États-Unis entre libéraux, démocrates. Donc cette dérive de plus en plus d'économie s'est accompagnée d'un glissement de sens. Et je voudrais vous donner ce que je pense est un exemple intéressant à réfléchir. Au fond, on parle de libre-échange. Très bien. En principe, le libre-échange devrait être un échange entre hommes libres. Or, qu'est-ce que les manuels d'économie apprennent encore à nos enfants, de moins en moins, mais apprennent encore à nos enfants, je l'ai vérifié, c'est que les échanges ont lieu au sein d'un monde peuplé d'homo economicus ou d'homo mini economici, qui sont des robots. l'échange économique a tellement dominé la notion de la relation entre individus libres que pour que cette relation de libre-échange existe véritablement, on en arrive à nier la liberté des individus. Et donc je suis personnellement convaincu que l'une des choses vraiment très importantes est de remettre la notion d'altruité dans l'économie. L'altruité est une notion, encore une fois, qui est à la fois rationnelle et morale. Morale de morale laïque, bien entendu, mais acceptable dans toutes les logiques religieuses que je connais, ou toutes les attitudes religieuses que je connais. Et donc, je pense qu'il y a un problème de philosophie politique très très profond auquel nous faisons face. Alors maintenant, pour en conclure, si j'ai raison ou si je n'ai pas totalement tort, dans ce cas, la faille est bien au cœur même des théories libérales, au cœur même de l'idée de liberté, et si tel est le cas, il faut refonder en quelque sorte le libéralisme, et pour le refonder, il faut repartir de la base, de l'idée de la liberté, et il faudrait donc en arriver à ce que j'appelle de mes voeux, qui serait un libéralisme altruiste, qui inclut ces notions d'altruité, et j'ai bien entendu, d'après un exposé précédent, que cela risquait de ne pas se produire avant au moins 50 ans. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre Philippe Kourilski sur la question de l'altruisme en politique. Son confrère Alain Berthoz évoquait pour sa part la place des neurosciences sociales pour mieux comprendre nos comportements à l'égard de la politique. Restez en notre compagnie et téléchargez sans plus tarder les trois autres volets du colloque « Regard sur l'homme contemporain » consacré à la politique et aux médias. Retrouvez notamment les interventions de Monique Cantos-Perber sur la notion d'intérêt général et de bien commun. Monique Cantos-Perber est directrice de l'École normale supérieure. François Daubert, ancien ministre du Budget, parle de l'éthique dans la finance. Le philosophe Pierre Manant s'intéresse à la place de la politique dans la vie humaine. Et le professeur de droit public Philippe Louveau se penche plus particulièrement sur l'influence des institutions sur notre société. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.